La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Alors, bonjour, Imad Sfer. La population française vieillit et l'espérance de vie sans incapacité paraît même stagner et aurait peut-être régressé selon les données statistiques récentes recueillies entre 2020 et 2022. Sans se focaliser sur le vieillissement biologique, cette situation pose bien sûr le problème du maintien à domicile et des alternances ou des aides possibles. Et cette situation est d'autant plus d'actualité que la situation des EHPAD a été l'objet récemment de polémiques quant à la qualité des services rendus, quant aux coûts, alors que, en majorité, les personnes âgées souhaiteraient pouvoir rester à domicile. Alors c'est pour évoquer cette situation que tu as bien voulu accepter de participer à cette émission. Donc je suis très heureux de t'accueillir en tant que gérontologue, très impliqué dans cette problématique. Et après t'avoir remercié, ce que je souhaiterais peut-être, c'est que tu puisses te présenter davantage.
Merci Jean-Pierre. Je suis Imad Sfer, gériatre de formation, et je suis le président du réseau RESEDA, réseau des maladies neuroévolutives de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis également directeur médical du groupe Vive 3 Bourgogne.
Donc particulièrement alors compétent pour nous aider à réfléchir sur le maintien à domicile ou éventuellement l'aménagement d'un nouveau lieu de vie. Afin qu'on puisse y voir quand même bien clair, l'essentiel c'est peut-être au départ de faire un état des lieux. Un état des lieux, c'est-à-dire qu'on nous dit que la France vieillit, mais enfin bon, est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Et puis d'autre part, il y a cette notion du vieillissement lié au vieillissement sans incapacité, parce qu'on voit bien les deux problèmes qui se posent. On a une espérance de vie qui part augmenter, mais une espérance de vie sans incapacité qui, elle, paraît stagner. Donc, déjà dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on appelle une personne âgée ?
Alors, il y a plusieurs définitions de la personne âgée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on est âgé à partir de 60 ans. Donc ça paraît un petit peu dépassé comme définition aujourd'hui quand on voit des personnes de 60 ans et plus en très bon état de santé et puis très dynamique. Après, selon le terme plutôt gériatrique, une personne âgée, c'est une personne qui a plus de 75 ans et surtout qui présente plusieurs pathologies en même temps, ce qu'on appelle la polypathologie. Et souvent, ce sont des personnes qu'on appelle fragiles, dans des domaines différents, et puis surtout au niveau de leur santé.
Même si, de façon générale, le vieillissement ne peut pas être considéré comme une pathologie.
Alors, heureusement, le vieillissement n'est pas une pathologie. Par contre, avec l'âge, on est beaucoup plus sensible et fragile vis-à-vis de certaines pathologies. D'ailleurs, la fréquence des pathologies chroniques chez la personne âgée est liée à l'âge, forcément. Et plus on est âgé, plus on est exposé à des pathologies chroniques.
Et en particulier qui touchent les fonctions cognitives. Bon, on aura l'occasion de le revoir. Dans un premier temps, est-ce qu'on a des statistiques françaises qui soient suffisamment fiables, qui permettent de dire, ben voilà, quel est l'âge moyen, finalement, des Français, est-ce que vraiment ils vieillissent? D'autre part, est-ce qu'il y a donc des personnes de plus de 75 ans, combien il y en a, et combien il y en a qui sont sans incapacité, au contraire, qui ont des difficultés? Est-ce qu'on peut disposer de statistiques qu'éventuellement les auditeurs pourraient aller vérifier sur le net?
Oui, tout à fait. C'est selon l'adresse, la direction de recherche et des études statistiques, donc qui a fait plusieurs enquêtes. La dernière en date de 2023 montre que l'âge moyen en France est de autour de 43 ans, avec plutôt 41 ans pour les hommes et 43 ans pour les dames, et donc une moyenne autour de 42 ans. Et donc ça, c'est l'âge moyen. hein, de la population française, avec une projection en 2050 de gagner au moins 4 ans. Donc on se projette à 46 ans d'âge moyen de la population française en 2050.
D'accord.
Alors, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle l'espérance de vie, qui est l'âge moyen qu'on espère avoir dans la population française, qui existe déjà de la naissance jusqu'au décès, hein, l'âge moyen, et donc qui est plutôt de 79 ans et demi pour les hommes et 86 ans et demi pour les dames.
En tant qu'espérance de vie, est-ce que ça a augmenté dans les années passées ou c'est au contraire en train de stagner ?
Alors, juste pour donner un petit, une petite comparaison, début du XXe siècle, hein, en 1900, l'espérance de vie de la population française était autour de 45 ans. Donc aujourd'hui, on a presque doublé notre espérance de vie en un siècle. Et effectivement, dans les projections en 2050, 2060, on estime que l'espérance de vie peut atteindre les 90 ans.
Mais alors on peut mettre quand même en perspective, à côté de l'espérance de vie sans incapacité. D'abord, peut-être que tout le monde ne sait pas bien ce que c'est. Et d'autre part, est-ce qu'on a une estimation en termes de chiffres ?
Alors, l'espérance de vie sans incapacité, c'est l'âge qu'on peut espérer atteindre au-delà de 60 ans en étant en bon état de santé et surtout en étant autonome pour les actes de la vie quotidienne. Hein. Cette espérance de vie sans incapacité, effectivement, elle est estimée aujourd'hui à partir de l'âge de 60 ans. Elle est autour d'une dizaine d'années pour les hommes et une douzaine d'années pour les femmes.
Alors, dans ces conditions, si on en vient maintenant à une approche pour le retour à domicile, ou du moins pour le maintien à domicile, la difficulté, ça va être de savoir si les personnes sont capables de vivre à domicile, d'où la notion qui avait été défendue de capacité, c'est-à-dire faire la différence entre ce qu'on peut faire en théorie et ce qu'on peut faire en pratique. Et ce qu'on peut faire en pratique n'est pas forcément ce qu'on pourrait faire en théorie compte tenu de l'environnement, un environnement envisagé autant sur le plan matériel, financier, architectural, que sur le plan humain. Si on dispose d'une aide éventuelle, que ce soit un aidant naturel ou un aidant professionnel. Et dans ces conditions, alors, quelles sont les principales altérations fonctionnelles qui pourraient compromettre cette capacité chez les personnes âgées et limiter leur maintien à domicile ?
Alors, il y en a plusieurs, effectivement. La première altération fonctionnelle, je dirais, ce sont les troubles cognitifs. À ne pas confondre avec un ralentissement cognitif qui peut caractériser certains personnes âgées qui sont un peu plus... ils ont besoin de plus de temps pour répondre, pour faire des calculs ou pour répondre à une équation, etc. Là, on parle bien de problèmes cognitifs. Ça veut dire ce sont des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, de la concentration, mais également ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est planifier des tâches, juger une situation donnée, etc., etc. Ces troubles cognitifs, effectivement, augmentent avec l'âge ça peut rentrer dans des maladies qu'on appelle les maladies neuroévolutives qui touchent le cerveau en perdant avec l'âge des neurones dans notre cerveau.
Il y a une différence entre l'évolution chez l'homme et chez la femme ?
Alors, étant donné que l'espérance de vie est plus importante chez les femmes, on retrouve statistiquement plus de troubles cognitifs chez les femmes que chez les hommes, probablement liée à un peu plus d'âge qui est avancé chez les femmes.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes qui n'ont pas la capacité de rester à domicile parce que, en dehors des problèmes cognitifs, on voit bien que là, il y a des difficultés majeures, mais en dehors des problèmes cognitifs, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ne peuvent pas rester chez elles parce que l'appartement, par exemple, n'est pas adapté, parce qu'il y a des escaliers, parce qu'il n'y a pas de circulation verticale, parce que c'est pas bien chauffé, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on a une idée des facteurs qui pourraient rendre les lieux d'habitation plus, on pourrait dire, capacitants, c'est-à-dire qui permettent à ces personnes-là de bénéficier de leur performance restante pour pouvoir rester chez eux.
Alors, effectivement, à côté des troubles cognitifs, il y a d'autres dysfonctionnements ou d'autres difficultés qui peuvent apparaître avec l'âge, et notamment les problèmes de chute. Et effectivement, ces problèmes de chute peuvent rendre le maintien à domicile parfois compliqué. Mais effectivement, sauf si on peut aménager l'environnement et malgré des difficultés de se déplacer et avec des risques de chute, on peut rendre l'environnement un peu plus sécurisant et éviter parfois l'entrée en institution un peu plus précipitée que ça doit l'être.
Avec quel type d'approche, par exemple, en utilisant des nouvelles technologies permettant repérer les chutes, repérer les risques de chute, éviter les conséquences des chutes, par exemple avec des airbags ou je ne sais pas, des choses de ce genre-là, ou au contraire, une modification du lieu de vie qui supprime un certain nombre de barrières. On peut avoir une réflexion là-dessus avec les moyens qui sont aujourd'hui possibles?
Oui, bien sûr. Déjà, il faudra aménager l'intérieur du domicile et là, on peut faire appel, par exemple, à des ergothérapeutes, entre autres, qui vont étudier l'environnement et surtout les obstacles qu'on peut avoir sur le chemin de la mobilité de la personne, en particulier par exemple des choses simples comme un tapis qui traîne par terre qui peut faire chuter les personnes d'un certain âge, il faudra les supprimer, un tableau qui dépasse, parfois aussi ça peut être certains animaux de compagnie, même si c'est un sujet sensible, mais on sait très bien que les chats sont très pourvoyeurs de chute. Alors l'idée c'est pas de supprimer les chats, bien évidemment, mais peut-être sécuriser leur accès et éviter que les gens se prennent les pieds en se déplaçant. Mais également, il y a tout le volet éclairage, par exemple. On sait très bien que les chutes surviennent souvent la nuit et souvent parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'on fait, et il suffit de poser un chemin lumineux qui s'éclaire la nuit de façon automatique.
Et avec des veilleuses qui s'allument au moment du passage.
Exactement, ça permet d'éviter certains chutes. Et une fois on a aménagé le domicile de façon un peu différente, on peut effectivement, pour certaines personnes qui sont à risque de chute et surtout une incapacité d'alerter, on peut mettre en place des systèmes de télésurveillance et pour justement pouvoir détecter la chute et alerter ou bien la famille ou bien les professionnels de santé.
Et il existe des vêtements ou des dispositifs qui permettent de limiter les conséquences graves des chutes?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, ça peut faire sourire certains, mais il existe des airbags au niveau des hanches, au niveau d'une culotte de maintien qui, au moment de la chute, ça peut s'ouvrir pour éviter une fracture du col du fémur, par exemple. Ça peut être très intéressant, notamment chez des personnes maigres ou qui n'ont pas suffisamment de tissu graisseux qui les protège,
le matelas
graisseux qui les protège de la chute.
Très coûteux.
Je pense que maintenant, ça commence à être beaucoup plus accessible.
Non remboursé.
Il y a certains mutuels qui remboursent ce type de dispositif, pas toutes.
Alors, je crois que la question qui se pose dans ces conditions, c'est de savoir comment on peut avoir ces informations. Autrement dit, l'ergothérapeute, comment peut-on le consulter pour qu'il vienne voir, donner des conseils sur l'aménagement de l'habitat? C'est possible, on peut avoir des consultations, et comment on fait, à quoi on s'adresse ou à qui?
Tout à fait, ça peut être au niveau de la commune. Il y a des CCAS, certains CCAS qui mettent à disposition des expertises ergothérapeutes. Ça peut être aussi au niveau du département, service d'autonomie du département.
On pourrait peut-être mettre sur le podcast des adresses où les personnes puissent s'adresser pour avoir ces informations-là, parce que c'est important quand même.
Oui, tout à fait, oui.
Et dans les CCAS, il y a la possibilité au niveau, par exemple, ici de la Dijon Métropole, d'avoir ces infos?
Oui, il y a une ergothérapeute qui permet de, qui répond aux questions, aux besoins, et qui peut aussi se déplacer à domicile si besoin.
Alors, donc ça, c'est déjà très intéressant. On a vu que malheureusement, les problèmes cognitifs, parfois, n'étaient malheureusement pas accessibles à ce type d'approche. Mais il y a un autre facteur qui isole un peu les personnes âgées chez elles, c'est le rôle qu'on leur fait jouer à travers la société d'aujourd'hui, où on dit volontiers, c'est une personne qui est en retraite, entre guillemets, donc elle ne fait plus rien. C'est une personne qui est pensionnée, donc parfois on fait des efforts pour elle, pour qu'elle continue à vivre, puis c'est bien, on s'arrête là. Alors qu'il y a un certain nombre de ces personnes qui conservent des compétences, qui conservent une expérience, qui mériterait d'être utilisée. Est-ce que cette utilisation est envisagée actuellement? Est-ce qu'il y a des CCAS, par exemple, qui ont des structures de ce type, où on fait participer les personnes âgées à la vie sociale, ce qui leur permet d'avoir le sentiment qu'ils ont encore, entre guillemets, un intérêt ou une utilité, et qui les sortent un peu de leur milieu d'origine, où elles sont confinées, alors qu'elles ont peut-être des troubles moteurs, mais pas de troubles cognitifs.
Oui, tout à fait. Effectivement, les CCAS organisent régulièrement des ateliers ou des échanges avec les seniors. Et puis, le but de ces ateliers et ces échanges, c'est de renouer le contact et motiver certains seniors d'interagir avec les autres. Et effectivement, on travaille beaucoup aussi sur les loisirs, sur aussi les expertises de certains seniors et les mettre à disposition des autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas très culturel.
Non, c'est un paradigme qui n'est pas très répandu, c'est dommage.
C'est dommage, puisque effectivement, on peut avoir tendance plutôt à voir les difficultés de certaines personnes pour faire certains actes de la vie quotidienne, mais on va pas aller chercher leur capacité et leur histoire, leur expertise dans certains domaines, et ne serait-ce qu'au niveau social, parce qu'on peut tout à fait imaginer que nos aînés, qui sont un peu isolés, pourront jouer un rôle auprès de peut-être des enfants, des petits-enfants. On peut imaginer que nos aînés pourraient accompagner les en crèche de temps en temps, oui. Certains participaient à certains ateliers ou ne serait-ce que jouer leur rôle de grand-père. Hein, et ça, c'est des choses qu'on ne fait pas suffisamment, je pense, en France.
Alors que ce serait vraiment une position gagnant-gagnant, dans la mesure où la personne âgée qu'on considère aujourd'hui comme étant à charge, hein, c'est d'ailleurs une expression qui est souvent utilisée, ils sont pensionnés, ils sont à charge, ils sont retraités, ils coûtent cher, ils servent à rien, je caricature un peu, hein. Mais on y gagnerait puisqu'on les ferait participer et ce serait pour eux un bien-être en termes de qualité de vie, et d'autre part on n'aurait plus ce sentiment faux d'avoir à entre guillemets prendre à charge des gens qui à la limite entre guillemets ne servent à rien.
Tout à fait. C'est vrai que quand on cherche une nourrice pour les ou quelqu'un qui garde les enfants pour une soirée ou pour une journée, on pense souvent à des profils d'étudiants et on pense pas forcément peut-être à la voisine à côté qui serait ravie de garder les enfants quelques heures ou
pour une journée. Et comment on peut faire pour initier ça, par exemple en parler, comme aujourd'hui au cours de cette émission, mais est-ce qu'il y a une possibilité peut-être d'intéresser des structures type, je ne sais, ARS ou des choses comme ça ou...
Je pense que ça peut être un formidable projet, en tout cas en termes de communication et en termes d'adhésion de certaines structures qui œuvrent à côté des personnes âgées, d'orienter vision de la personne âgée vers ce qu'elle est capable encore de donner, ne serait-ce qu'en termes de personnes qui jouent un rôle dans la société.
Avec un vécu, avec une expérience.
Et ça peut être un très beau projet à porter auprès de l'ARS, auprès aussi de la conférence des financeurs, hein, qui finance certains dispositifs auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, effectivement.
Alors si malheureusement, les effets du vieillissement, les effets de l'isolement, l'absence de participation conduit à une sorte de désespoir qui conduisent des personnes âgées au suicide. Est-ce que les suicides des personnes âgées, on a une idée du nombre ?
Alors, en tout cas, on sait que les personnes âgées, ils ont une sensibilité à la dépression qui est plus élevée que les personnes jeunes, puisqu'on considère que presque une personne sur deux qui a plus de 60 ans peut avoir des signes cliniques de dépression. Alors, on sait également que les femmes dépriment plus que les hommes, de façon globale, puisqu'on a deux dépressions chez une femme âgée pour un homme. Par contre, ce qu'on sait également, que les hommes, malheureusement, se suicident beaucoup plus facilement que les femmes. Donc, le taux de suicide chez les hommes âgés est beaucoup plus élevé que chez les femmes âgées dépressives.
Ça représente un nombre qu'on a fixé ou qui est difficile à retenir parce que... quand on voit les actes de décès, on ne marque pas forcément l'origine. Hein. Oui, on dit un arrêt cardiaque, mais en réalité, il a été provoqué par quelque chose.
Alors, les suicides connus, ça représente 10% à peu près de la population dépressive, hein. Des personnes âgées dépressives, ce qui n'est pas négligeable.
Ah oui, c'est pas mal, oui. Donc, tout faire pour essayer d'éviter ça, leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible, d'avoir une participation sociale, ce qui va également de pair avec une ville qui est plus facilement accessible, avec une possibilité de trouver sur place des magasins, par exemple. Et on voit aujourd'hui que malheureusement, en milieu rural, beaucoup de petits commerces disparaissent. Et il faut aller à la grande surface qui se situe à quelques kilomètres, même si c'est peu. Souvent, les personnes âgées ne peuvent pas le faire. Donc, il y a là un vrai problème. Et on peut alors maintenant avoir une réflexion sur les mesures prises pour faciliter le maintien à domicile. Alors, j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait comme élément disponible. Et j'ai trouvé un rapport qui date de 2022, qui était mis à jour en 2024, en juillet, donc c'est quand même quelque chose de très récent, venant du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité homme-femme, et qui a proposé des mesures, j'ai repris le titre exact, sur faciliter le choix du maintien à domicile. Donc ce qui veut dire que les personnes ont envie de rester à domicile, mais on va leur faciliter la manœuvre. Et il y a quatre axes qui ont été isolés, et en particulier la mise en œuvre d'une adaptation du domicile, on l'a vu, donc il n'y revient pas. Et puis d'autre part, une expression que je n'ai pas forcément bien analysée, qui est de finir avec la dichotomie domicile-EHPAD. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là et comment on peut faire ?
Alors, c'est vrai que... au jour d'aujourd'hui, en France et en Europe, surtout l'Europe du Sud, nous sommes organisés de telle façon de effectivement, on privilégie le maintien à domicile puisque l'entrée en institution coûte cher. Du coup, on a tendance, même les pouvoirs publics, à proposer le maintien à domicile au maximum. Et c'est aussi, c'est un choix des personnes âgées. C'est un choix fort des personnes âgées. Et puis, quand on devient dépendant, c'est l'EHPAD. Donc, effectivement, on a deux extrêmes et on n'a pas su, à l'instar de certains pays de l'Europe du Nord ou du Canada, par exemple, de proposer d'autres
des situations intermédiaires.
Dispositifs, voilà, des travailler beaucoup sur des colocations, sur des logements plutôt foyer logement ou résidence autonomie, etc. Et puis c'est vrai que ça donne une connotation assez négative des EHPAD, puisque au jour d'aujourd'hui, on rentre en EHPAD sans être vraiment toujours d'accord et sans être vraiment toujours motivé, puisque les EHPAD ne sont plus les maisons de retraite qu'on a pu connaître il y a une trentaine d'années, où l'âge moyen d'entrer en EHPAD il était beaucoup plus jeune que maintenant, et on rentre de plus en plus dépendant, voire très dépendant, qui donne une image de fin de vie hein, pour nos EHPAD. Et je pense qu'il faudra beaucoup travailler sur les autres alternatives. Alors, les EHPAD, ce sera toujours quelque chose qui restera, pas forcément avec le nom EHPAD, mais peut-être on trouvera un autre nom. En tout cas, on aura toujours besoin d'une institution qui permet d'accueillir des personnes très dépendantes.
Bien sûr.
Par contre, on peut imaginer que quand on est isolé socialement, quand on a encore des capacités, mais on a besoin de garder ce rôle dans la société et puis échanger avec les autres, de travailler sur des dispositifs de colocation ou de colocation intergénérationnelle, etc., etc. Ou bien certains types d'établissements avec quelques petits services, mais pas de services médicalisés, on va dire, pour ne pas arriver à un stade où le choc, entre guillemets, d'entrer en EHPAD, en institution, est assez brutal. Alors,
il est prévu dans ce rapport qu'il y ait de nouveaux services d'aide à domicile, les SAD. Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut y avoir accès ? Ça coûte cher ?
Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs services d'aide à domicile de façon globale. On connaît les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD. On connaît aussi les SIAD, c'est des services infirmiers à domicile pour des prises en charge un peu plus médicales. Et donc, on a voulu regrouper ces deux services en un seul qui s'appelle le service d'autonomie à domicile, le SAD, pour une meilleure coordination et une fluidité dans le parcours. Après,
Et le recours à ces services, ça coûte?
Alors, pour tout ce qui concerne le SAD, c'est des services d'aide à domicile, c'est en fonction des ressources. Je pense, c'est en dessous de 1000 euros à peu près, on peut accéder à des services de SAD à domicile qui sont. D'accord. Alors, il y a un nombre d'heures qui est pris en charge. Après, on peut faire appel aussi en dehors de ces heures prises en charge à nos frais. Hein,
Donc compatible avec le niveau de retraite moyen des personnes âgées aujourd'hui. On a une idée d'ailleurs de ce niveau de retraite moyen en termes d'argent.
Alors, le niveau de retraite moyen aujourd'hui en France, il est autour de 1500 euros bruts mensuels.
Ah oui.
Hein. Et ça, c'est le moyen. Hein. Donc, il y a des gens qui vivent en dessous de 1000 euros hein, et d'autres, bien évidemment.
Et si on met en perspective le coût de l'EHPAD?
Alors, le coût de l'EHPAD, en général, aujourd'hui, il est autour entre 2000 et 2500 euros. Et ça, ça dépend des régions, ça dépend des villes et ça dépend des prestations. C'est une fourchette. Hein. On peut atteindre dans la région parisienne les 6000 euros par mois. Hein.
Donc avec la tendance à ce qui est un écart qui peut être quand même relativement important et qui peut être un blocage.
Oui, c'est vrai qu'avec des retraites de plus en plus revues à la baisse, on va dire, il y a des personnes qui ont effectivement des ressources insuffisantes dans ce cas-là,
compensé par la famille.
C'est compensé par la famille et en cas d'incapacité de la famille à subvenir aux besoins de la personne de l'aîné de nos aînés, donc dans ce cas-là on peut demander des places à l'aide sociale qui sont avancées ou payées par le conseil départemental, selon les conseils départementaux. Et puis, ça, c'est en cas où la famille ne peut pas subvenir aux besoins.
Alors, dans le même rapport, concernant les EHPAD, il y a une nouvelle mission qui leur apparaît confiée, que je ne connaissais pas, même en titre, et qui s'appelle le Centre de ressources territoriales. De quoi il s'agit ?
Alors, le centre de ressources territoriales, effectivement, ce sont des nouveaux dispositifs. On a beaucoup entendu des EHPAD hors les murs qui ont eu du mal à s'organiser. Donc, c'est un nouveau dispositif qui vise à s'appuyer sur des ressources internes à l'EHPAD en termes de professionnels, des médecins, mais aussi d'infirmières, d'aides-soignantes, mais aussi des paramédicaux, une ergothérapeute, une psychologue, etc. Pour aller à domicile, pour évaluer les besoins et puis proposer effectivement d'aménager l'environnement, d'apporter des aides à domicile, etc., dans le but de maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes âgées.
On arrive à la fin de l'émission. Pour faire rêver peut-être un petit peu nos auditeurs, avec les nouvelles technologies, par exemple, est-ce qu'on peut espérer qu'à travers l'intelligence artificielle, à travers la robotique, on pourrait trouver là des moyens qui améliorent la situation?
Alors, nous, on peut, bien évidemment, on peut imaginer dans un avenir plus ou moins proche hein, d'avoir un robot assistant hein, qui aide, qui accompagne la personne dépendante de certains actes de la vie quotidienne, donc à domicile. Et ce n'est pas de la science-fiction, ça commence à arriver. Après, le frein, il est avant tout psychologique et pas forcément des usagers. Les freins, c'est surtout les soignants et les familles. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on dit à une famille qu'on peut avoir demain pour votre maman un robot qui peut l'assister. C'est vrai que culturellement, c'est quelque chose qui n'est pas encore rentré dans les esprits. Alors, ceci étant, ça demande encore quelques années pour que l'intelligence artificielle les structures robotiques, les plateformes robotiques soient performantes pour qu'elles soient assez autonomes hein, pour surveiller pour, et puis alerter et accompagner les personnes fragiles à domicile. Mais c'est quelque chose qu'on verra dans les prochaines années. Et j'ai envie
Donc il y a
dire,
un espoir.
C'est un espoir et même si on préfère toujours qu'on soit aidé bien évidemment par une personne humaine, mais quand on n'a pas le choix, il faut mieux un robot que personne. Et si la volonté de 9 personnes âgées sur 10 de rester à domicile, si ça doit passer par aussi en complément d'une assistance robotisée,
pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Et l'intelligence artificielle, pourquoi pas non plus, dans la mesure où c'est un moyen de rendre compte de ce qui se passe vraiment sur le lieu de vie. Parce que les personnes âgées qui ont perdu le lien, qui sont isolées, peut-être que l'intelligence artificielle permettrait d'avoir des alertes et de les aider pour communiquer lorsqu'elles sont dans une situation pénible.
Tout à fait. Et puis, avec tout ce qu'on voit arriver... avec l'intelligence artificielle et sa capacité de s'adapter aux questions, aux besoins des personnes, on peut imaginer une aide extraordinaire pour communiquer à distance,
voilà.
Mais aussi pour pouvoir organiser des soins à domicile, mais aussi accéder à certains professionnels à distance. Donc, la technologie, ça peut être une chance si on sait bien en cibler les besoins et si on l'utilise à bon escient.
Donc voilà, deux lueurs d'espoir vraiment qui devraient éclairer beaucoup dans les années à venir. Donc, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Et il est clair que le vieillissement, c'est une réalité biologique, incontournable. Néanmoins, il est possible de le rendre compatible avec le maintien d'une bonne qualité de vie. On en a eu quand même quelques ouvertures. Et cette façon de faire passe par le maintien à domicile, quoi qu'on dise, lorsque les perturbations des fonctions cognitives, toutefois, ne l'interdisent pas. Alors, vieillir, c'est juste un autre mot pour dire vivre. Et ça, c'est Cindy Joseph qui l'a formulé. Je trouve que c'est une très belle formule sur laquelle on pourrait conclure en disant faisons en sorte de la voir ainsi s'épanouir. Alors, merci beaucoup, Imar Sfer, pour la visite et puis l'image d'un vieillissement qui finalement ne devrait pas être un naufrage.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.